parution de votre dictionnaire amoureux d'Israël chez Plon, je voulais juste vous poser une question à propos de votre avant-dernier livre, Elie Barnavi, Confession d'un bon à rien. C'était aux éditions Grasset en 2022. Votre éditeur, Olivier Nora, patron des éditions Grasset, a été limogé par Vincent Bolloré dans le cadre de sa guerre culturelle contre l'universalisme. Ça vous a mis en colère ?
D'abord, ça ne m'a pas étonné. Mais avant tout, Olivier était un ami, c'était un formidable éditeur. Et ça ne m'a pas étonné parce que c'est l'atmosphère dans laquelle on vit. Quoi. Il fallait s'y attendre, je pense qu'il s'y attendait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un scandale. Et voilà, on pourrait passer l'émission.
Bon. Voilà, mais on ne le fera pas parce qu'on va parler de cet ouvrage qui est édité chez Plon. On en parle donc de ce...
Ma vie, vous êtes historien, vous avez passé votre vie à raconter Israël. Votre dictionnaire amoureux traverse l'histoire du pays à travers ses figures et ses mythes, ses promesses et ses fractures. Alors que la guerre s'installe de nouveau au Proche-Orient, pour comprendre ce qui se joue au-delà du fracas, vous avez le profil idéal. Vous naissez en 1946 à Bucarest, dans une famille juive marquée par l'histoire européenne. Votre père communiste, devenu sioniste après la guerre, vous transmet une conviction forte. Israël est à la fois un refuge et un projet. En 1961, vous émigrez en Israël. Vous y vivez, étudiez, passez par l'armée comme parachutiste. Mais très vite, vous choisissez le terrain des idées. À Jérusalem, Tel Aviv, puis la Sorbonne, vous vous spécialisez dans l'histoire moderne et les guerres de religion. Vous publiez de nombreux ouvrages comme Les religions meurtrières ou Lettre d'un ami israélien à l'ami palestinien.
Je crois que nous sommes une grosse minorité à être persuadés de cette vérité qu'il faut négocier, y compris avec les gens qui représentent les Palestiniens.
Très tôt, vous prenez position dans le débat public, notamment contre la guerre du Liban en 1982. Entre 2000 et 2002, vous êtes ambassadeur d'Israël en France, en pleine seconde intifada. Pas le sentiment de peser sur les décisions, mais une conviction.
Il faut bien comprendre, quels que soient les hommes au pouvoir, chez nous, en face, nous sommes condamnés à la paix, si je puis dire. Nous n'avons pas d'autre alternative.
Critique du gouvernement israélien, inquiet de la radicalisation de la société, vous restez convaincu que le camp de la paix existe. Vous défendez une solution à deux États, mais sans pression extérieure, elle ne verra pas le jour. Votre dictionnaire amoureux d'Israël s'inscrit dans cette démarche, raconter un pays sans le réduire. Au fond, votre ligne n'a pas changé, vous refusez les lectures trop rapides ou trop manichéennes.
Comme je l'ai dit depuis des décennies, la solution là-bas sera imposée ou on ne le sera pas. Parce que si on laisse faire les partis, on n'y arrivera pas.
Vous le dites clairement, entre êtres humains, on peut trouver un compromis. Mais quand chacun pense que la terre lui a été donnée par Dieu, c'est impossible.
Grâce à votre dictionnaire amoureux, que c'est un Anglais, Lord Robert Peel, en 1937, qui a eu cette idée, envoyée en Palestine mandataire, du partage en deux de la Palestine. Alors pourquoi, malgré toutes les tentatives de résolution du conflit israélo-palestinien, c'est toujours resté insoluble? Parce que de nationaliste, c'est devenu un conflit religieux?
Oui, si on voulait réduire une situation extrêmement complexe à un facteur unique, ce serait celui-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux nationalismes qui se font face. Et tant que ces nationalismes sont des nationalismes, c'est-à-dire des mouvements nationaux aussi durs sur le combat qui les oppose, ils peuvent parvenir à un compromis. Si Dieu s'en mêle, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous dites « cette terre ne m'appartient pas, elle appartient au Tout-Puissant, moi j'en suis le dépositaire, je n'ai pas le droit d'en aliéner une partie », à ce moment-là, c'est fini. Et pendant très longtemps, les Arabes ont rejeté le fait juif, et nous, on aspirait à la paix, et puis en 67, on a conquis tout ce territoire. Et là, c'était visiblement le doigt de Dieu. À partir de ce moment-là, les positions se sont plus ou moins inversées. Et c'est nous qui avons dit non, puisque cette terre nous a été donnée. On ne peut plus la donner. Je crois que très grossièrement, on peut résumer cela comme ça.
Benjamin.
Elie Barnavi, vous avez une des entrées de votre dictionnaire, c'est « démocratie et État juif », un oxymore, point d'interrogation. La réponse est en suspens. Est-ce que le fait qu'il y ait une loi sur la peine de mort qui a été votée pour les seuls Palestiniens vient donner une réponse à cette ambiguïté-là?
Non, c'est une étape de plus sur la longue descente d'Israël dans l'illibéralisme, comme on dit aujourd'hui, c'est pas la fin, vous savez. De toute façon, cette loi sera probablement abolie, cassée
par la Cour suprême.
Mais le fait même qu'on ait eu ça et qu'on a débouché le champagne et que le ministre de la sécurité intérieure se promène avec ses amis à la Knesset avec un pins sous forme de nœud coulant, si vous voulez, ça montre bien à quel point nous avons changé d'aile, puisque ce parti était banni de la Knesset il n'y a pas si longtemps que ça.
Élie Barnavi, c'est ce qui vous fait dire à propos de l'état de Judée, page 218 de votre dictionnaire, l'état d'Israël est menacé de l'intérieur par l'état de Judée, autrement dit un messianisme actif incarné précisément par messieurs Ben Gvir et Smotrich. C'est ça? C'est une menace existentielle pour l'état et la démocratie?
Ce sont deux conceptions de l'État juif qui se font face. L'une qui est, disons, attentive fondée sur l'État de droit, c'est un État fondamentalement occidental, hein, mais qui essaie de concilier tout cela avec un caractère juif qui est un peu vague, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais qui est un État démocratique, c'est ce que veut dire l'expression démocratique et juif. C'est pour ça que j'ai dit que c'est presque une contradiction dans les termes, mais qu'on a réussi tant bien que mal à faire vivre ensemble, et puis brusquement c'est la dimension juive qui prend le dessus, et c'est un État qui est de moins en moins messianique, démocratique et de plus en plus juif, et c'est le rôle du messianisme. Que vous évoquez.
Et que vous évoquez, vous, longuement dans votre dictionnaire. Alors, on va évoquer avec vous, Élie Barnavi, et avec Anna, 1 million de citoyens européens, vous êtes forcément au courant, qui demandent à l'Union européenne de mettre fin à l'accord d'association avec Israël.
Oui, la pétition a dépassé le 1 million de signatures. Plus d'1 million de citoyens issus de 7 États membres, dont la majorité sont français, ont dénoncé l'accord d'association qui a été créé en 2020 pour faciliter les échanges commerciaux entre Israël et l'Union européenne. Ils dénoncent plus précisément la violation de l'article 2 de cet accord. Celui-ci précise que les relations bilatérales reposent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Et face à la poursuite des opérations israéliennes à Gaza comme au Liban, les signataires estime donc que l'accord contribue, je cite, à légitimer et financer un État commettant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. La Commission européenne va désormais devoir analyser, examiner cette pétition dans un délai de 6 mois et faire une réponse argumentée à ses auteurs. Alors, est-ce que vous pensez que la suspension de cet accord, ça peut contraindre d'une manière ou d'une autre le gouvernement de Netanyahou?
Alors, vous savez, chacun de ces mots me fait mal. Je suis un patriote israélien. Je suis profondément attaché à l'Union européenne. Je pense que c'est le plus grand saut de civilisation depuis toujours, en quelque sorte. Pour la première fois, on a réussi à dépasser le nationalisme étroit pour construire quelque chose d'inédit dans l'histoire. Et pour moi, l'État d'Israël associé à l'Europe, c'est une promesse, quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est pour ça que j'ai dit que chaque mot de cette proclamation, de cette pétition, me fait mal. Et en même temps, je comprends cela, et je pense qu'on ne peut pas y échapper. Je pense que sans une attitude punitive, sans une limite claire, on ne s'en sortira pas. Il faut que le mépris du droit, le mépris du droit des Palestiniens, un État, il faut que ça ait un prix. Or, il n'y a jamais eu de prix. Israël, hélas, est la seule démocratie qui domine militairement notre peuple. Il faut que ça cesse.
Élie Barnavi, Emmanuel Macron a reconnu la Palestine. Israël mène des opérations extrêmement violentes au Liban contre le Hezbollah. Et Benjamin Netanyahou a fait savoir que les Français ne devaient pas se mêler d'un règlement diplomatique. Est-ce que c'est d'abord à cause de cette reconnaissance? Et puis qu'est-ce que ça vous inspire?
Vous savez, Israël n'a plus de diplomatie. Israël n'a plus de ministère des Affaires étrangères. On a une diplomatie de l'insulte, du coup de poing. Et donc évidemment, tous ceux qui disent ce que nous n'aimons pas. Et en plus, il y a des élections qui approchent. C'est-à-dire qu'il faut, bien comprendre que...
En Israël, c'est un enjeu considérable pour le Premier ministre.
Toutes ces déclarations sont un clin d'œil à la base, c'est-à-dire la base de ceux qui sont censés assurer la réélection de Netanyahou. Et donc voilà, donc, bon, Emmanuel Macron dit ceci, donc voilà, il a pris le droit de s'exprimer. Alors le seul qui a encore le droit de s'exprimer, c'est Trump. Mais Trump, on ne sait pas comment il va s'exprimer. C'est, si j'étais Netanyahou, je serais extrêmement inquiet d'arriver là, parce que c'est le seul appui qui reste à ce gouvernement. Il y en a un qui l'a perdu, c'est Orban, c'est pas, qui a mordu la poussière. Et donc, voilà, donc, il faut cesser d'avoir peur de l'action hystérique de cette équipe au pouvoir qui est un gouvernement qui ne représente plus le peuple d'Israël. Vous savez, ils sont minoritaires dans l'opinion, et j'espère bien qu'on en sera débarrassé en octobre prochain.
Merci. Écoutez, c'est le mot de la fin. Merci, Elie Barnavi, d'être venu évoquer.